En résumé, depuis le début, nous avons dit que le message d'Ésaïe 54 s'adressait en gros à toutes les personnes qui sont dans un désir de bâtissement avec l'Éternel. Parce que l'instruction de base était, que j'avais reçue, c'était élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, qui correspond au verset 2 de ce chapitre. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'était vraiment l'instruction que j'avais reçue. Et c'est autour de ça que j'avais cherché la connaissance de Dieu, cherché la face de Dieu, cherché la révélation du Saint-Esprit, et pour comprendre l'instruction que le Seigneur me donnait et avec laquelle j'ai évolué depuis ce temps, depuis 2013 jusqu'à maintenant et que je poursuis. Donc, aujourd'hui que je suis presque à la veille de passer à une autre étape de mon ministère, parce que j'ai reçu vraiment de passer à l'occupation du terrain que le Seigneur me donne, l'occupation que le Seigneur me donne sur le web, je reçois en moi, je reçois l'instruction de terminer avec les bénédictions. Et je vous assure, pendant que je travaillais ce message, ça m'a énormément enrichi et j'ai envie de partager ça avec vous, avec tous ceux qui, comme moi, vraiment sont dans un processus d'accomplissement avec l'Éternel. Donc je disais qu'avec Ésaïe 54, nous avons donc étudié premièrement les recommandations divines. Ensuite, nous avons étudié les instructions qui sont les ordres de Dieu, les défis que nous devions relever. C'était les instructions du verset 2. Avec le verset 3, nous avons étudié les engagements de notre Dieu, ses promesses. Parce que quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, il y a toujours une promesse au bout. Nous avons étudié avec le verset 4 à 10, nous avons étudié l'assurance de sa restauration avec les bénédictions qu'il nous donnait en Abraham. Amen. En campant notre identité comme ça en Abraham. Donc, et nous avons étudié aussi largement du verset 11 et le verset 12, nous avons étudié les actions, les mots, le mode opératoire divin. Et vraiment, nous avons été largement bénis. Nous avons été grandement bénis. Et tous ces messages, ces 19 messages, nous ont amené à progresser, moi particulièrement. Ça m'a vraiment amené à entrer dans l'accomplissement de mon appel, entrer dans l'accomplissement de mon ministère, et qui est passé par le site www.héritageduroyaume.com, qui s'est élargi toutes les royaumes, qui a été sur le terrain par des conférences, par-ci, par une expansion, donc vraiment, et qui aujourd'hui demande à s'élargir sur le web. Et je vais voir aujourd'hui avec vous, je vais étudier aujourd'hui avec vous la dernière partie de ce texte que j'ai intitulé la grâce de Yahweh. Vraiment la grâce de Yahweh pour ceux qui veulent accomplir avec l'Éternel. Amen. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu es merveilleux, tu es bon, tu es grand, tu es souverain. Vraiment, Papa, je te rends de multiples actions de grâce et je te dis merci pour un jour comme celui-ci. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi. Merci de me donner l'opportunité, Seigneur, aujourd'hui, de vraiment d'achever cette étude. Et j'ai la ferme conviction, Seigneur, que c'est parce que tu me fais passer à un autre niveau. Je te rends grâce pour cela. J'invite Saint-Esprit de Dieu, mon Paraclet, viens et prends contrôle de ce temps et conduis-moi. Révèle-moi la parole de Dieu et permets que pendant ce message, vraiment, tu t'exprimes toi-même et que tu permettes à tous mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs qui écouteront ce message, tous ceux qui sont dans un plan d'accomplissement avec l'Éternel, de trouver en ce message vraiment les clés, les ressources et de la bonne nourriture, alléluia, pour aller encore plus loin. Je prends autorité en Jésus-Christ et je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de désordre, tout esprit d'erreur. Je frappe de mutisme, tout voix contraire, et j'appelle un esprit de concentration, j'appelle un esprit d'éveil, j'appelle un esprit de force, j'appelle un esprit d'intelligence et de sagesse au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, aujourd'hui, nous devons nous atteler sur les versets 13 à 17 de Ésaïe 54. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire l'ensemble du chapitre Ésaïe 54 pour nous recamper vraiment dans le contexte. Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te rependras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, Amen, et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, alléluia, je garnirai tes pierres d'antimoine, amen. Je te donnerai des fondements de saphir, alléluia. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Glory, 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 glory. Mes frères, mes sœurs, tous ces versets nous ont permis de faire 19 messages vraiment riches, de minimum une heure chacun. Je vous exhorte, ceux qui vont écouter ce message pour la première fois sur le site, dès que ça sera mis sur le site, et qui n'ont pas écouté les autres messages, je vous exhorte vraiment de prendre toute la série et de véritablement l'étudier pour en tirer vraiment bénéfice pour votre propre parcours avec le Seigneur. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Glory, 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 glory. Quelle promesse, quelle bénédiction. Quand je lis les versets 13 à 17, il m'apparaît vraiment qu'il est nécessaire que nous nous attardions sur trois ou quatre aspects. La notion de service, et d'héritage, la notion d'autorité et de pouvoir, la notion de privilège et de faveur avec l'Éternel. Amen. Et nous allons voir ces différents aspects. Mais avant d'attaquer ces différents aspects qui concernent vraiment les versets de 13 à 17, j'ai reçu en cœur, la part de l'Esprit, de m'attarder sur un point. Parce qu'en constatant que ça faisait aujourd'hui 5 ans que j'ai reçu cette révélation, que j'ai reçu cette instruction de l'Éternel d'élargir l'espace de ma tente et de rentrer dans un processus d'accomplissement avec lui, j'ai réalisé que de 2013 à 2018, aujourd'hui, décembre 2018, ça faisait 5 ans. 5 ans. Et le Saint-Esprit m'interpelle, me rappelle sur le sens symbolique du 5. Spirituellement, le chiffre 5, c'est la symbolique de l'action et du travail. Les 5 doigts de la main, les 5 ministères de Christ, les 5 vierges sages. Le 5, spirituellement, marque un passage à l'action. Si quelque chose était encore dans la conception, si quelque chose était encore dans la spéculation, si quelque chose était encore dans le spirituel, en passant au 5, ça symbolise qu'il faut que ça passe dans un déroulement concret de mise en œuvre. Et j'ai dit, waouh, c'est le temps de la réalisation. C'est le temps de passer à un autre niveau, beaucoup plus concret. J'ai compris que c'était le temps pour que les missions en Christ héritage du royaume, qui ont démarré donc en 2013 par le site www.com, rentrent vraiment dans la plénitude de sa dimension, dans les 7 axes de déploiement que j'ai reçus comme étant mon appel. Et en regardant cela, la symbolique du chiffre 5 aussi représente, symbolise la grâce de l'Éternel. Je ne vais pas m'attarder ici sur la symbolique des chiffres, tous les chiffres. Je vous donne celui du 5. Vous pouvez trouver sur le site www.com un document ressource que j'ai fait pour donner des informations sur la symbolique des chiffres, la Bible spirituellement parlant. Et je vais prendre le temps pour entrer un peu dans ce que le Saint-Esprit veut nous révéler et dans ce que le Saint-Esprit veut que vraiment nous possédons comme instruction en ce qui concerne ce processus de mise en œuvre, ce processus de réalisation, quand on rentre en réalisation quelque part, et ce processus quand on obtient la grâce de l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Et pour illustrer cela, le Saint-Esprit m'a éclairé, m'a orienté sur l'accomplissement de Zorobabel, sur un passage de la Bible dans le livre de Agée et de Zacharie. Nous allons travailler cela. De quoi s'agit-il de façon globale? Il s'agit du travail de reconstruction, du travail de construction du temple à Jérusalem. Nous savons que dans le livre d'Esdras, il est question du retour d'exil du peuple pour aller retour à Jérusalem pour construire le temple. Et c'est Zorobabel qui a reçu cette instruction, qui a reçu cette mission. Et le roi Darius avait reçu de la part de l'Éternel instruction de financer et de faciliter le retour d'exil d'une partie du peuple qui était là-bas afin qu'il reparte à Jérusalem pour bâtir son temple. Le livre d'Esdras, du premier chapitre au chapitre 6, parle de cela. Et Esdras et Josué et Zacharie et les âgés sont rentrés à Jérusalem, ont Zorobabel a commencé à construire en tant que gouverneur, a commencé à reconstruire le temple, mais il a subi des oppositions. Nous connaissons l'histoire de Sambala et de Tobija, qui se sont vraiment opposés à cette œuvre, au point que Zorobabel a laissé tomber, a abandonné la construction du temple. Donc nous sommes dans ce contexte-là, où le temple a été abandonné, n'était pas plus terminé, et les gens vaquaient à leurs occupations. Les gens s'occupaient de tout et de rien, de leur vie, etc. Et le temple n'était pas reconstruit. Donc nous sommes dans ce contexte-là, et le Seigneur suscite ses prophètes. D'abord Agé, dans la même année, il suscite ses prophètes. Deux jeunes prophètes revenus de l'exil. Il suscite Agé d'abord. Dans le livre de Agé, nous savons que Agé fait des reproches au peuple. Il les interpelle, il les encourage pour recommencer à construire le temple de l'Éternel. Il est dit dans le livre d'Agé, la deuxième année de Darius, premier jour, au sixième mois, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shéphtel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Interpellation. Je vais m'arrêter là pour le livre d'Agé. Simplement pour dire que Agé, en tant que prophète, s'est levé et a parlé de la part de l'Éternel pour interpeller Zorobabel, qui était gouverneur de Juda, interpeller Josué, qui était le souverain sacrificateur, et le peuple tout entier, pour leur dire, il est temps de construire l'aile. Tout le monde est là, chacun s'occupe de ses propres affaires, et vous dites que ce n'est pas temps, et vous laissez la maison de l'Éternel détruite. Il est temps que vous vous levez. Deux mois plus tard, le Seigneur suscite un autre prophète, en la personne du prophète Zacharie. Et le prophète Zacharie, sous une autre forme, se lève et maintenant reçoit des informations de la part de l'Éternel pour il fait des visions qui lui permettent de pouvoir parler et à Zorobabel et à Josué de façon précise pour les encourager, pour les rassurer, pour les motiver à re-rentrer dans le plan de l'accomplissement des desseins de l'Éternel. Et voilà le contexte dont nous avons trois personnages particuliers qui doivent entrer en action, chacun en ce qui le concerne, mais tous devant conduire à favoriser l'accomplissement de l'œuvre instruite et attendue par l'Éternel, d'une part, et garantir aussi l'achèvement de cette œuvre et la pérennité de cette œuvre. Voilà le contexte dans lequel on trouve. Les visions de Zacharie concourent à ça, à mettre Josué et Zorobabel dans le contexte que l'Éternel leur dispose pour l'accomplissement de cette reconstruction. Attardons-nous un peu pour comprendre comment le Seigneur procède lorsqu'il veut que quelqu'un qui est en partenariat avec lui entre dans l'action, rentre dans la plénitude de l'accomplissement de ce que le Seigneur lui demande de faire. Ça me parle parce que je suis vraiment dans cette phase de passer à un autre niveau d'accomplissement avec l'Éternel. Et ça me plaît de comprendre comment le Seigneur procède. Dans les visions de Zacharie, il parle par la bouche du prophète pour encourager, exhorter à l'action, susciter la confiance du peuple de façon générale, mais surtout en particulier de Josué et de Zorobabel. Dans la vision, dans le chapitre 3 du livre de Zacharie, nous n'allons pas le lire, je vous invite pendant que vous écoutez ce message à lire de ces chapitres-là. Dans le chapitre 3, après que Zacharie ait reçu de l'Éternel des paroles et des révélations pour exhorter le peuple, il s'adresse particulièrement à Josué. Ce chapitre 3 va s'atteler à une vision que Zacharie a, et cette vision met en scène Josué et la sanctification. C'est-à-dire que Josué était tellement resté en dérive de sa fonction de sacrificateur que le Seigneur, pour les remettre encore en action, avait besoin de recentrer vraiment la sainteté du sacerdoce du sacrificateur. Parce que le contexte de sainteté, ce contexte de sacrificature était fondamental dans l'Ancien Testament pour l'accomplissement des missions. Nous savons que nous, en Christ aujourd'hui, nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit de façon courante, quotidienne, disposée. Parce que notre Seigneur Jésus a prié le Père pour que Il nous envoie le Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, c'était épisodiquement que le Seigneur remplissait ses oins de l'Esprit de Dieu. Donc, il avait besoin de créer cette atmosphère de sainteté encore au niveau de soi. Donc, la vision du chapitre 3 montre que Josué est accusé par l'accusateur que nous connaissons, à cause de ces vêtements sales. Et quand on parle de vêtements sales, quand on parle des vieux vêtements, c'est parce que c'est des personnes qui sont éloignées, qui se tiennent éloignées de l'Éternel. C'est des personnes qui ont leur vieux moi qui prend le dessus. Et en tant que sacrificateur, cette attitude ne convenait pas au service de Dieu. Donc il a fallu que l'ange change le vêtement de Josué. Donc, dans la vision de Zacharie, Zacharie a assisté à cela, au changement de vêtements de Josué, au fait que le Seigneur a mis en place un processus pour ôter l'iniquité de Josué et pour rhabiller Josué de vêtements neufs et pour le rhabiller de vêtements sacerdotaux, pour reconfier à Josué tous ses attributs de sacrificateur. Amen. Dans le chapitre 4, Zacharie a une autre vision concernant maintenant Zorobabel. Ce chapitre 4, nous allons le lire. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifie cette chose, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifie ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Deux points. Grâce, grâce pour elle. Et il poursuit en disant, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se rejureront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Amen, amen, amen. Ceci est important. Parce que voilà Zorobabel qui avait presque abandonné la mission. Parce qu'il avait presque fini par craindre l'opposition. Il avait lâché devant toute l'opposition qui l'avait empêché de continuer de bâtir le temple. Il avait presque besoin d'être encouragé. En tant que gouverneur, il devrait conduire le peuple dans le processus de bâtissement de ce temple. Mais il avait déjà abandonné. L'Éternel dit, Zorobabel, tu dois te lever et faire ma mission. Zorobabel, tu dois accomplir ce que je t'ai ordonné d'accomplir. Mais il dit à Zacharie, ce qu'on fait voir à Zacharie, c'est une façon de, va dire à Zorobabel ceci. La vision que Zacharie a vue du chandelier avec deux oliviers, entouré de deux oliviers, semble, cette vision nous parle, parce que nous savons ce que signifie le chandelier. Nous savons que le chandelier c'est le Saint-Esprit, et nous savons que la lumière du chandelier éclairée, c'est l'onction. Nous savons que quand on parle d'un chandelier qui est actif, il s'agit de l'onction, parce qu'on parle de l'huile que l'on déverse dans le chandelier et qui doit faire maintenir la flamme du chandelier constamment allumée. Donc l'Éternel dit ici quelque chose. En voyant le chandelier et les oints autour du chandelier, on parle d'une dimension d'onction qu'il est en train de déverser sur à la fois Josué, mais surtout à Zorobabel, pour pouvoir accomplir. Et l'Éternel dit quelque chose de particulier. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Va dire à Zorobabel de se lever et d'aller accomplir. Parce que ce qu'il va aller accomplir, dans ma grâce, je lui donne l'onction de l'accomplissement. Mais seulement, ce n'est même pas par sa force, ce n'est même pas par sa puissance, ce n'est pas par ses propres moyens qu'il va le faire. C'est mon esprit qui va agir sur lui. Donc je libère mon esprit pour que mon esprit assume cette confiance. Mais Zorobabel doit se lever. Nous, c'est ça que nous devons comprendre lorsque nous sommes dans un processus d'accomplissement avec l'Éternel. Nous devons comprendre que ce n'est ni par la force, ni par nos propres moyens, ni par notre intelligence, ni par nos compétences que nous allons parvenir à accomplir ce que le Seigneur nous demande d'accomplir avec. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ce que nous devons faire, nous devons nous mettre à disposition vraiment pour recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu qui libère certainement lorsqu'il nous confie une mission. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Éternel lui-même se lève devant les oppositions. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ça veut dire qu'une montagne qui s'élève est une opposition. Et l'Éternel dit, toute montagne qui se dresse devant celui qui rentre dans mon accomplissement sera aplani. Je le dis pour ma propre personne. Qui es-tu, grande montagne, devant trop servant de l'Éternel dans l'accomplissement des missions en Christ, héritage du royaume. Qui es-tu? Tu seras aplani au nom de Jésus. Et l'Éternel dit de la bouche de Zacharie, en parlant de Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Grâce, grâce pour elle. C'est-à-dire dans ma grâce particulière, dans cette grâce de l'accomplissement que je dépose sur la vie des personnes qui accomplissent avec moi, il posera la pierre principale. Et dans l'acclamation, ça veut dire que tous ceux-mêmes qui s'étaient opposés la dernière fois, eux-mêmes, ils viendront applaudir. Alléluia. Et de la bouche de Zacharie, de Zacharie, le Seigneur donne à Zorobabel la garantie, la certitude que cette mission, il va la commencer et il va la terminer. Il dit, ses mains ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Amen. La vision continue. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il y a quelques éléments ici que je voulais rappeler, déjà pour notre instruction, mais aussi pour... Il y a deux visions. Il pose une fois la première question. Ce que lui, il voit, Zacharie, c'est deux oliviers à gauche et à droite du grand chandelier. Nous savons que les oliviers, c'est la symbolique déjà de l'homme, bibliquement, c'est la symbolique de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que l'aspiration d'un homme qui croit en Dieu et qui marche avec l'Éternel, c'est d'être un olivier qui est verdoyant. C'est d'être un olivier qui porte du fruit, le fruit d'olive qui est concassé pour faire de l'huile. Donc là, nous sommes en train de parler, comme je disais ici, du fait d'être producteur, du fait d'être producteur d'huile pour pouvoir entretenir le chandelier. Amen. C'est l'image du Saint-Esprit vraiment agissant en nous. Et l'olivier, c'est un arbre symboliquement qui se caractérise par sa magnificence, par son fruit qui produit de l'huile d'olive, comme on l'a dit, qui est le symbole de l'excellence de l'onction divine. Quand il représente, en fait, l'olivier, Orvador, représente dans une population ce type de chrétiens qui sont de véritables temples du Saint-Esprit et marchent vraiment sous la conduite de l'Esprit de Dieu et agissent sous l'onction divine. Ce sont eux que l'on caractérise comme des oliviers. Ce type d'enfants de Dieu, de croyants, qui sont véritablement oints, qui sont des vrais imitateurs de et qui agissent avec autorité et puissance qui est déposée sur eux. Ce sont des chrétiens qui sont vraiment des oliviers verdoyants, c'est-à-dire producteurs de fruits, et qui se confient dans la bonté de Dieu éternellement et pour toujours. Ça, c'est David qui le dit dans Psaume 52, 10. Des oliviers vraiment verdoyants qui fonctionnent et qui font confiance en l'Éternel et qui mettent leur confiance dans la bonté de l'Éternel aussi. Alléluia. Dans ce type de croyants, ce type d'enfants de Dieu, ce type de chrétiens sont considérés vraiment comme des oliviers. Donc, à l'instar de Zorobabel et de Josué, que l'on voit dans la vision comme étant des oliviers. Donc, quand on veut accomplir pleinement avec l'Éternel, il faut vraiment être des oliviers. Il faut vraiment se mettre dans la condition de porter du fruit, de demeurer en Christ, de solliciter le Saint-Esprit, de se confier à la bonté de l'Éternel et d'avancer vraiment selon dans la puissance, dans l'autorité du Christ et demeurer à l'abri de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième vision, c'est que Zacharie regarde et nous dit une chose. Dans la première vision, nous parle d'onction, dont Dieu garantit son onction pour ceux qui accomplissent avec lui. Il ne laisse pas les gens aller seuls. Vraiment, il a un déversement de l'onction sur eux, de sa grâce aussi. La deuxième vision nous parle d'or qui coule. C'est la même vision, le même chandelier, mais au lieu de voir des oliviers, Zacharie voit, ici c'est écrit des rameaux d'olivier. Ça fait allusion au feuillage de l'olivier, pas à l'arbre entièrement, mais au feuillage de l'olivier. Et il dit le feuillage de l'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or. Je me suis dit, mais d'où vient-il que nous sommes en train de parler d'huile et d'onction? D'où vient-il que nous sommes en train de parler de chandelier et d'olivier? Et Zacharie voit de l'or. Je suis partie chercher, vous savez, moi je vous ai toujours dit, hein, moi je ne veux pas des études superficielles. Moi je ne veux pas rester, je cherche la profondeur. Et je dis au Saint-Esprit de Dieu, il faut que tu me révèles quelque chose. Je suis allée regarder dans la signification des mots, parce que je dis les mots, c'est les mots qui nous parlent. La parole de Dieu dit que la révélation des mots en anglais, c'est the revelation of the word, dont les mots doivent nous parler. Je regarde, je dis deux rameaux d'olivier. Et je dis, je vais regarder le mot, et je me rends compte que quand je vais comparer, par exemple, le même mot rameau, j'ai regardé le même mot rameau dans la Bible par ailleurs, le rameau de palmier, rameau de poing, je me suis rendu compte que quand on parle de rameau, en fait, c'est un autre mot qu'on utilise, un mot qui se rattache au bois, à la tige, etc. Mais ici, dans ce verset, le mot qui est utilisé a une signification particulière. C'est comme si on disait que le mot qu'on a utilisé donne plutôt le sens de l'eau qui coule, le sens de quelque chose qui est coulant. C'est le même mot que l'on utilise pour désigner un cours d'eau, des flots d'eau vive, par exemple, ou de l'eau courante. Donc, on dit que le feuillage d'olivier, en quelque sorte, coulait. Mais ce qui coulait des feuillages de l'olivier pour rentrer dans les becs, ce qui coulait, avait l'apparence de couler, était en connexion avec les becs de remplissage du chandelier. Mais ce qui est encore particulier, c'est que les becs du chandelier, c'est par là qu'on verse l'huile pour alimenter le chandelier. On verse. Mais ce verset nous dit que dans la vision de Zacharie, à partir de ses becs, ce n'était pas que quelque chose rentrait, mais à partir de ses becs, l'or découlait. Ça veut dire que l'or sortait du chandelier, découlait pour enrichir les oliviers par leur feuillage. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, l'huile vient des oliviers pour alimenter le chandelier, afin que la flamme soit bénéfique, éclaire et conduise Zorobabel. Mais de l'autre côté, ce même chandelier aussi libère de l'or, alléluia, qui par le feuillage des oliviers enrichit Zorobabel. Et je dis, Seigneur, c'est particulier. Donc, dans l'onction que tu donnes, dans le processus de la marche avec le Saint-Esprit, tu libères aussi la provision. Parce que l'or, dans la Bible, nous savons tout ce que c'est. L'or, c'est d'abord dans sa pureté, dans sa préciosité. C'est le symbole divin de toute matière, tout ce qui peut être matérialisé. Divinement, c'est l'or. L'or enveloppe tout pour montrer la sainteté du Père. L'or enveloppe tout dans le lieu saint, etc. L'or, c'est la pureté. L'or est inaltérable. Et l'or qui coule, c'est un or qui est fondu, donc prêt à l'usage. Ce n'est pas une pépite d'or ou un lingot d'or que l'on a... Pas un lingot d'or, un pépite d'or ou encore de l'or qui est dans la terre. Non, c'est de l'or qu'on a déjà extraite. C'est de l'or qui a été fondu, de l'or qui a été purifié et de l'or qui est prêt à l'usage. Et j'ai dit, waouh Seigneur, je reçois. Parce que je sens que tu me parles de provision. Tu me parles de la provision pour l'accomplissement. Et toi, tu libères, tu veux rassurer Zorobabel. Que ne t'en fais pas, Zorobabel, lève-toi et fais ma mission. Parce que non seulement je te donne une notion pour l'accomplissement, mais je te libère la provision qu'il faut pour ça. Et je te garantis l'achèvement de ce que tu auras commencé. Gloire, gloire à Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Dieu fonctionne comme ça dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il de nous qui sommes dans la grâce? Je vais déjà dire quelque chose de particulier à ce moment. Nous sommes dans le temps de Christ. Mais j'ai toujours dit, et chaque fois que je donne mes messages, c'est pour vous dire la richesse de l'Ancien Testament. Pour apprendre à connaître l'Éternel, pour apprendre à connaître les préceptes, les principes, les lois et la façon dont Dieu fonctionne. Dans le Nouveau Testament, on n'explique pas comment Dieu fonctionne. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, même au travers des évangiles, dit qu'il est venu accomplir la loi. On ne passe plus le temps parce qu'il lui est venu parler du royaume des cieux. Amen. Si on veut comprendre dans la fonctionnalité de certaines choses concernant l'Éternel, si on veut aller dans la connaissance de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament que l'on doit lire ça. Mais on doit lire l'Ancien Testament dans sa position d'enfant de Dieu, dans sa position de disciple de Jésus. On doit se camper en Christ pour lire ce qui est dans l'Ancien Testament, avoir la compréhension mais l'exploitation par le sang de Jésus. Donc, mettons un regard dans le contexte d'aujourd'hui où nous sommes en Jésus-Christ. Dieu fonctionne de la même façon, trois en un, dans le royaume de Dieu. Jésus, notre Seigneur, par son œuvre à la croix, est à lui seul, à la fois prophète, sacrificateur souverain et gouverneur et roi. Il est le roi du royaume des cieux. Il est prophète. Et il est sacrificateur souverain, royal, selon l'ordre de Melchisédek. Nous l'apprenons dans les Épîtres. Paul nous explique ça correctement. Et en Jésus-Christ, l'éternel Dieu, qui est l'éternel, mais qui est devenu Dieu notre Père par Jésus-Christ, ne passe plus que par Jésus-Christ pour agir. Pour amener son peuple à l'accomplissement de ses desseins, d'une mission, d'un appel. Car Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit à l'Éternel maintenant. Et par sa mort à la croix, nous savons que Jésus-Christ nous a fait, par le pouvoir et l'autorité qu'il a acquis à la croix du calvaire, par son sacrifice et par son partenariat avec l'Éternel Dieu son Père, il a fait de nous des rois pour le royaume des cieux. Il a fait de nous des co-héritiers, enfants de Dieu. Et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, doté d'un sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek. La parole de Dieu nous explique que Il nous fait bénéficier de sa triple identité. Donc, chacun de nous en Jésus-Christ est éligible à l'accomplissement des desseins de Dieu. Parce qu'en lui, en nous tout seul, on a la sacrificature, on a la gouvernance et on a la prophétie. Nous sommes prophètes de nos propres vies pour nous dire, demander l'esprit de prophétie. Amen. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Donc, même d'autant de Jésus aujourd'hui, vraiment, Dieu fonctionne de la même façon. Le problème, c'est qu'en Christ, au jour d'aujourd'hui, nous sommes éligibles à l'accomplissement des desseins du Père. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu, pour des raisons et d'autres, se contentent de demeurer enfants et de manger les miettes de l'héritage. Ils veulent demeurer enfants, dont rester esclaves. La parole de Dieu nous dit, tant qu'un héritier demeure un enfant, il fonctionne comme un esclave. Son héritage lui échappe parce que quelqu'un d'autre va gérer ça. Dieu ne change pas ses procédures, ni sa justice. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Les contextes dans lesquels on évolue peuvent changer. Les dispensations peuvent changer. Mais les principes de Dieu ne changent pas. De la même façon qu'il a procédé avec Zorobabel, Josué et Zacharie, dans l'ancien temps, pour la construction du peuple, de la même façon, il va procéder avec nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Et il va nous faire recevoir l'information de la vision, de l'appel et des missions qu'il nous donne. Il va nous équiper et nous préparer pendant même un bon moment pour l'accomplissement. Il va s'assurer du contexte de la sainteté, de la sanctification qui nous a. Il a aussi veillé déjà à notre sacerdoce royal. Tout est accompli en Jésus-Christ, oui. Mais il nous demande de revêtir notre vêtement de louange. Et pour revêtir notre vêtement de louange, pour marcher avec Jésus-Christ, nous devons nous défaire de notre vieil homme. Nous devons enlever nos habits sales. Nous devons abandonner certaines habitudes afin de revêtir ce vêtement de louange et aller devant lui. Parce que par le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il a ouvert le voile de l'accès au lieu très saint a été ouvert. Mais pour rentrer dans le lieu saint, nous savons comment est-ce que l'on revêt la sainteté par Jésus-Christ. L'Éternel Dieu nous l'a donné. La sanctification nous l'a donné par le sang du Christ, par la parole de Dieu. Et notre Seigneur nous dit lui-même, portons notre croix et suivons-le. En Jésus-Christ, nous avons tout ça. Mais le Seigneur nous dit, pour entrer dans ma sacrificature, revêtez votre vêtement de louange. Donc, c'est les actions que nous-mêmes nous devons poser. Et une fois qu'on est dans ce processus-là, il nous revêt de son onction. Amen. Il libère la provision pour le trésor de l'œuvre. Et il libère la grâce de l'accomplissement. Et il nous permet de passer à l'action sous la conduite de son esprit. Parce qu'il nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Donc cet esprit-là prend le contrôle et nous conduit. Nous devons le suivre. Et ce que l'on demande de faire, c'est vraiment pas le plus important. Nous devons donc avancer vraiment avec pleine confiance. De Dieu, nous devons nous intéresser à rentrer vraiment dans l'accomplissement de l'Éternel, avec pleine confiance que Dieu s'occupe de cela. Vraiment, merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci parce que c'est en pleine confiance que je rentre dans cet accomplissement. Alléluia. Parce que tu me rassures, Seigneur, de tout ce que tu fais, spirituellement, Père, pour me précéder dans ce ministère, pour me précéder dans cet appel. J'y vais pleine de confiance dans ta bonté, dans tes largesses, dans ta générosité, dans ton amour, Ô Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour l'onction de réalisation et d'achèvement que tu promets et que tu libères. Amen, amen, amen. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom.